Coucou Mathilde.
Coucou Clélia.
Ça va?
Oui, ça va et toi?
Ouais, ça va. Ben, ce soir, Bras Zéro, la première du cycle sur l'écriture.
Oui, et du coup, j'ai réfléchi par rapport à ça. Je me suis dit, vu qu'on est les petites nouvelles de l'émission, ça pourrait être cool que ce soit nous qui proposons une intro de cette émission. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, grave, je suis chaud.
Voilà, et du coup, comme tu sais, l'année dernière, il y a eu toute une série d'émissions J'aime lire sur des personnes qui éditent des livres, créent, diffusent des brochures, tiennent des bibliothèques, etc. Et que cette année, il y a le projet de faire une série d'émissions sur l'écriture, où on entendrait des auteurs, des autrices qui parlent un peu de leur manière d'écrire, du processus d'écriture et tout ça. Et du coup, ça serait chouette si on pouvait trouver une manière d'introduire ces émissions-là. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est une super idée. Je crois qu'il y avait l'idée d'imaginer une maison de l'écriture, une maison imaginaire comme ça, dans laquelle il y aurait des écrivaines, des écrivains, et dans laquelle on pourrait se balader pour les rencontrer, leur poser des questions. On pourrait peut-être introduire cette maison, la présenter, je sais pas trop de quelle manière.
Ah mais grave, trop bien. Genre de faire un peu cette ambiance, quoi, que les personnes, elles arrivent et elles captent un peu, que ça leur donne envie d'écouter la suite, quoi.
Mm-mm.
Un truc un peu avec du suspense.
Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, genre, d'une bande d'annonce?
Grave. Genre un trailer?
Un trailer. Et on pourrait... Non mais attends, vas-y, quitte à faire, on fait un trailer genre film d'horreur.
Grave. Mais un truc qui fait bien flipper, quoi.
Ouais, genre ça donnerait un truc genre comme ça. Après Bras Zéro, j'aime lire. Bras Zéro, écriture. Ils sont 8 partant à la quête du mystère de l'écriture. Ils sont 8 à se demander comment surmonter l'angoisse de la page blanche. Après des semaines d'errance, de réus faites d'espoir et de désespérance, ils prennent les armes, des micros, des questionnaires et partent à la recherche des auteurs et autrices. Un jour, un portail s'est ouvert. Derrière ce portail, une maison. La maison de l'écriture.
Hé, l'équipe, regardez, la maison est ouverte. On y va?
Mais cette maison leur réservait bien des surprises. Ils ont réalisé que l'écriture était un instrument d'oppression, mais aussi de libération. Ils ont découvert le champ infini des possibles à travers la fiction, la recherche, la poésie ou encore les ateliers d'écriture. Ils ont aussi rencontré des auteurs et autrices complètement accros à l'écriture.
Tu sais, tu réfléchis à la moindre tournure de phrase, le mot utilisé, tu vois.
Pour moi et les gens avec qui je suis en relation, il vaut mieux pas que j'arrête d'écrire.
Une chose est sûre, ils n'en ressortiront pas indemnes.
Installez-vous, s'il vous plaît. Installez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est Bras Zéro dictée surprise.
Oh non.
S'il vous plaît. On va commencer. Sortez un crayon.
Bah, t'as pas un stylo, s'il te plaît.
S'il vous plaît, une feuille blanche. On va voir si vous arrivez à écrire droit.
T'as pas une feuille ici.
Ça commence.
Attends.
De 19h à 20h.
19h, on l'écran en entier ou juste...
S'il vous plaît, de 19h... À 20h, virgule, j'écoute Bras Zéro, virgule, j'écoute Bras Zéro, virgule, sur Canal Sud, virgule, 92.2, 92.2. Vos copies sur le bureau.
Attends, c'est vrai.
Un ensemble de rectifications orthographiques proposées par le groupe.
Elle est incroyable, cette maison.
On fait quoi, on y va? On va l'explorer un peu?
Je suis pas sûre, mais ouais, là, faut qu'on y aille, ouais. Allez, vas-y, viens. J'ai peur. Waouh, c'est super beau et très grand.
Regarde, il y a un grand escalier et une immense porte. Tu veux pas qu'on y voie ?
Ouais, vas-y, carrément.
Je me demande bien qu'est-ce qu'il va y avoir derrière cette porte. Je sais plus si j'ose y aller.
Non, moi non plus, je suis pas du tout sûre. Pourtant, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On entend vite fait des bruits,
des voix. C'est sûr qu'il doit se passer plein de choses. C'est quoi ce bruit ?
On ne nous entend pas. Oh.
Coucou. Qui est là ? Sinon, on fait quoi ? On se fait un petit cache-cache ?
Ouais, un petit café, un petit cache-cache, comme tu veux.
En attendant qu'il y ait des auteurs et autrices.
Ben, vu qu'en plus on... Ouais. Ben, vas-y. Ben, je compte. Tu vas te cacher.
Non, okay, j'ai trop
vas-y,
peur.
Je ferme les yeux.
Mais attends, parce qu'on fait quel cache-cache ? Tu sais, il y a un cache-cache. Dans un sens, il y a une personne qui se cache et une personne qui cherche. Mmh. Et des fois, il y a un cache-cache dans l'autre sens. Et là, comme on est deux, ça marche pas.
D'accord. Si on se cache toutes les deux, ça va pas marcher.
Dans l'autre sens, c'est tout le monde se cache. Non, j'ai oublié.
Ok, vas-y, je reste ici et toi, tu vas dans les coins sombres. Mais peut-être qu'on va peut-être pouvoir se rediriger vers cette porte. Et l'ouvrir. Waouh ! Américo ?
Certification orthographique.
Américo.
Conseil supérieur de la langue française.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Ont été approuvés par l'Académie française.
Il nous entend pas ?
Et publiés en décembre 90.
Mais il nous voit pas non plus.
Documents administratifs du journal officiel.
Ça veut dire
ces
qu'on
rectifications
est
ont pour but de résoudre les problèmes graphiques.
Invisible, on peut faire ce qu'on veut.
D'éliminer les incertitudes.
Ouais, enfin, c'est flippant aussi. On est invisible dans cette maison.
Ouais, mais en même temps, on n'est pas obligé de fermer la porte si on veut chiotter.
C'est vrai.
Ok.
L'Académie française a décidé de soumettre à l'épreuve du temps ces simplifications et ces ajustements qui ne concerneront pas plus de 3000 mots sur les 55 000 que comportera la 9e édition de son dictionnaire et de proposer de juger, après une période d'observation, des graphies et emplois que l'usage aura retenus. C'est la règle qu'elle a toujours suivie, même lorsqu'au cours des 18e et 19e siècles, elle a changé à deux reprises l'orthographe de plusieurs milliers de mots. Pétrin. Rien de moins que la grandeur de la France jouée dans la bonne écriture, l'accord juste. D'ailleurs, ça sonne régulièrement aux oreilles.
Ouh là là, ça pique les yeux.
Moi, c'est simple, s'il y a trop de fautes, je n'arrive pas à lire. C'est d'abord une histoire de respect, en fait. C'est plus fort que moi. Il faut que je corrige, je n'y peux rien. J'en passe et des meilleurs, voire des pires. C'est même un critère éliminatoire sur les applications de rencontres.
S'il y a trop de fautes, direct je dégage.
Au final... Il n'y a certainement pas plus classant que l'orthographe. La dictée, c'est le moment où la classe se met en ordre. On écoute, virgule, et l'on écrit dans la règle, point. Si tu n'écris pas dans les clous, eh ben arrête, fais un effort, relis-toi un peu. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans « Ma mère est passée me prendre à l'école » si « Maman » s'écrit « M-E-R » ou si « E » s'écrit « E-T » C'est quoi le souci ? Obéir à des règles absurdes et en faire une fierté, c'est bien de chez nous, ça. Contrairement à ce qu'en disent les bons élèves, l'obsession de la correction sert plus à faire taire qu'à se faire comprendre. Avoir un orthographe aléatoire, c'est prendre des remarques permanentes sur la forme qui font passer le fond à la trappe. C'est voir ses textes affichés, corrigés au stylo rouge. C'est se faire rappeler qu'on n'a pas sa place. Bien entendu, si on corrige, c'est pour ton bien. Pour la compréhension, pour l'image, pour la crédibilité même. On entend la même chose sur l'écriture épicène ou inclusive ou féminisée, comme vous voudrez. Cette modification de l'orthographe pour effacer le sexisme inhérent à la langue. La règle, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Rien de personnel, non, mais vraiment, c'est juste la règle. Et puis, c'est plus simple, non ? Il faut bien des règles. Bla, 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 bla. L'ordre du monde naturalisé qu'on te resserre à assaisonner au bien commun.
Du classement scolaire jusqu'aux écritures de tracts, il y a quelque chose de pourri qui s'impose à nous, dans nos manières de nous exprimer comme dans les moyens de tenter de comprendre ce que dit l'autre, ce que pense l'autre. Quand la règle, même absurde, a la force de s'intercaler dans l'échange, au point de ne pas arriver à lire, au point de faire dégager tout de suite, il y a quelque chose qui cloche, non ? Ce serait quoi la langue débarrassée des règles stupides du classement et des académies ? Ça mériterait au moins d'être réfléchi.
Ok. Clélia ?
Ouais.
Je crois que j'ai envie, ça m'a donné envie de laisser tomber le cache-cache et de continuer d'explorer la maison, ça te dit pas ?
Moi aussi.
De voir qu'il y a d'autres, qu'est-ce qu'on pourrait entendre d'autre ?
Ouais. Il y a peut-être d'autres personnes un peu dans toutes ces pièces-là.
Je me demande bien qui on va pouvoir espionner maintenant. Oh bah, Mathieu Rigouste et Ariella.
Mais qu'est-ce qu'ils font là ?
Je m'appelle Mathieu Rigouste et je fais de la recherche indépendante en sciences sociales. Et du coup, je suis amené à écrire dans l'idée de faire des outils de connaissances critiques depuis les luttes et pour les luttes. J'écris, je passe pas mal de temps devant des écrans pour écrire des livres ou des articles, mais aussi dans le cadre d'un projet qui s'appelle Enquête Critique, où pareil, on fait des outils de transmission des méthodes critiques d'enquête pour les luttes, et du coup ça demande aussi de l'écrit régulièrement, voilà surtout quoi.
Et est-ce que t'as un nom de plume, c'est-à-dire est-ce que tu signes ou pas ce que t'écris, et est-ce que tu te considères comme un auteur?
Des fois j'ai l'impression que le fait d'être édité avec mon vrai prénom et mon vrai nom, des fois ça fabrique un faux toi qui a ton nom, tu vois, et avec des gens qui imaginent des trucs ou une espèce de figure publique. Mais après sinon il y a des trucs que j'écris sous des pseudos qui changent. Des fois il y a même des trucs que je fais complètement anonymes. Et puis j'essaie pas mal de faire des choses avec d'autres gens, et du coup ça des fois on signe en collectif ou on signe pas. J'ai plein de manières d'intervenir. Est-ce que je me considère comme un auteur ça fait partie des choses que je fais, quoi. Je sais pas si c'est... J'utilise jamais ce mot-là pour me définir, tu vois. Je vois pas ça comme mon identité, mais par contre, c'est quand même un des trucs qui prend pas mal de temps dans ma vie, dans ce que je fais. Du coup, je dirais plutôt... je fais de la recherche et j'écris, quoi.
Et ce travail d'écriture, comment qui vient ?
Franchement, je sais pas, parce que je me rappelle que je faisais genre j'écrivais comme des petits livres, petites brochures de quand j'étais en primaire. Mais j'aimais bien faire des livres, quoi. Mais je sais que pareil au lycée, j'avais commencé à écrire une espèce de brochure contre l'éducation nationale. J'en avais vraiment trop marre. Et après, en fait, je suis arrivé un peu par hasard. Enfin, par hasard, non, c'est déterminé socialement, tu vois, mais quand même, j'avais pas vraiment prévu d'aller à la fac. Je voulais surtout arrêter l'école, et puis en fait, j'y suis quand même arrivé. J'y suis arrivé en sciences sociales, ça vraiment un peu par hasard. Et là, j'ai vu qu'en fait, dans les sciences sociales, il y avait des choses pour nourrir nos colères et pour réussir à s'organiser à partir de nos révoltes, quoi, et de comprendre les systèmes auxquels on avait affaire, quoi. Et du coup, je me suis mis à écrire à un autre niveau. Et puis, je suis entré dans le syndicalisme révolutionnaire à l'époque. Du coup, c'est pareil, il fallait écrire des tracts, des comptes rendus de réunions, plein d'autres trucs où tu redécouvres l'écrit et qui sont ultra formateurs aussi, sur une manière de construire sa pensée, de la traduire, de la rendre lisible aussi, de la rendre appropriable. Et puis après j'étais jusqu'à une thèse. Du coup, là, c'est un monstre d'écriture, quoi. Tu passes des années à lire, écrire des tonnes de choses pour arriver à pondre un truc de plusieurs centaines de pages, quoi. Mais ça transforme aussi, quoi. Voilà. Et après, on m'a régulièrement proposé d'écrire des livres sur différents sujets. Donc, après, j'ai jamais arrêté d'écrire beaucoup, quoi.
Et du coup, c'est ton métier, c'est ton taf d'écrire ? Ou tu le définis pas forcément ?
Bah, disons, en théorie, je suis un peu contre le travail, tu vois. Enfin, et en théorie, et j'aime pas trop ça. Et en même temps, j'ai vraiment l'impression de passer beaucoup, beaucoup de temps à faire des trucs qui ressemblent à du travail. Quand même, la plupart du temps, j'ai pas gagné ma vie avec ce que ramène ce que j'écris, quoi. Et non, ce que j'écris rapporte pas grand-chose, comme la plupart des auteurs. Peut-être c'est intéressant, mais du coup, enfin, sur un livre, tu touches 8% du prix de vente. C'est-à-dire, avant d'en vendre des milliers et des milliers, enfin, je sais pas, moi, pendant longtemps, ça m'a juste ramené quelques centaines d'euros par an, quoi. Et là, peut-être, j'en sais rien, peut-être 1000 euros par an, enfin, tu vois, tu vis pas avec ça, quoi. Et du coup, est-ce que c'est ton métier? Je sais pas, quoi. Surtout quand, enfin, vraiment, mes travaux de recherche et les livres que je fais, je les vois dans un. Enfin, ça me paraît participer d'engagement, de lutte. Du coup, je vois pas tellement ça comme mon métier. Et en même temps, ça prend une place tellement importante dans ma vie que c'est bizarre, c'est un truc entre les deux, quoi, peut-être un peu.
Un truc entre les deux, un peu comme entre deux portes dans la maison de l'écriture. Le capitalisme, c'est un peu comme un film d'horreur, en fait. C'est ça que je comprends. Ça te dit, on continue d'explorer cette maison ?
Allez, il y a un immense, immense couloir, hyper flippant. Est-ce qu'on le prendrait pas pour ouais. voir ce qu'il y a au bout ?
Ah, maintenant qu'on y est, de toute façon, on peut plus reculer. Il y a des toiles d'araignée de partout, avec des stylos qui pendent au plafond, et des feuilles de partout.
J'ai un petit peu envie de partir. Non, vas-y, on reste, on a encore trop de choses à voir.
Non, là, on a rencontré un auteur, mais qui c'est qui écrit, là ? Il y a des bruits d'écriture comme ça qui surgissent de nulle part. C'est super flippant. Surtout que c'était pas prévu. Mais là, on a rencontré un auteur, mais il y a peut-être des autrices aussi. Toi, t'avais entendu qu'il y avait une sorte de polémique à un moment, parce que ils ont mis super longtemps à faire rentrer le terme d'autrice dans le dictionnaire. D'ailleurs, je sais pas si c'est rentré, mais on pourrait pas parler d'autrice, tu vois. Faudrait garder le nom masculin, parce que ce serait un métier d'homme, quoi.
Alors, je ne savais pas, Clélia, mais nous aurons peut-être la réponse derrière cette porte.
Je m'appelle Liana. Alors, je revendique le terme autrice au lieu de auteur E, puisque du coup, à l'oral et à l'écoute, on entend que le mot est féminisé, c'est hyper important. Et je revendique aussi le terme dans la mesure où il y a trop peu de personnes, et notamment de meufs, qui se revendiquent autrices, alors qu'il y a plein de meufs qui écrivent. Donc je trouve ça important, ça visibilise en fait quelque chose. Là, j'écris en ce moment un roman dans le cadre du Master Création Littéraire de Toulouse, dans lequel je suis entrée il y a 2 ans, où on rentre avec un projet. Je suis en train de terminer ce projet, qui est un roman, un récit choral, où il y a donc 4 personnages qui parlent chacun à leur tour dans des chapitres différents et sur des générations différentes entre la France et le Maroc. C'est une autofiction, c'est inspiré de personnes réelles. Pour le roman, j'écris dans le cadre de résidences d'écriture que je crée. Donc je vais m'isoler 2-3 jours quelque part pour écrire. J'y arrive pas quand je suis dans mon quotidien, donc du coup, je me force à m'extraire de la société. Voilà. D'autant plus qu'il me faut un certain temps pour re-rentrer dans les personnages, l'ambiance et tout. Et donc, il faut non seulement que je sois isolée, mais que j'ai quelques jours devant moi. Bah, j'ai 4 dossiers qui correspondent à 4 personnages. Tu sais, je vais d'un personnage à l'autre, tu vois, dès qu'il y a un truc qui me fait penser à tac, 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 tac. Et puis après, j'organise ça sur un autre dossier, je prends des extraits, je les retravaille, et ça fait le truc final. C'est un truc qui se travaille, c'est sûr, mais moi, j'ai la chance d'avoir un père qui était écrivain. Donc, c'est pas pour rien que j'écris et que j'ai fait cette formation-là. Je pense que c'est surtout un truc de reproduction sociale, en réalité. Quand tu nais dans un milieu artistique et tout, et qu'on te pousse à... Enfin, on m'a pas poussé à écrire, mais on m'a fait lire beaucoup. Et donc, de fait, c'est plus facile d'écrire quand t'as lu, c'est plus facile d'écrire quand t'as vu quelqu'un qui le faisait. et tout. Tu vois, t'exprimer par ce biais-là, d'exprimer les émotions et ce qui te travaille par un biais ou un autre, c'est facilité par ton environnement socio-culturel et familial. Mais je le vois clairement, notamment depuis le master, mais même avant, les gars qui écrivent, ils se posent pas la question de la légitimité. C'est même un argument de vente, de séduction. Ben, je suis auteur, tu vois, avec la petite frange qui fait comme ça. Tu vois ? Non, mais c'est sûr qu'il faut déjà avoir une confiance en soi pour aller envoyer un texte en maison d'édition. En plus de ça, les personnes qui vont sélectionner vont favoriser les hommes. Enfin, du coup, oui, ça se mord la queue. Et moi, bah, encore une fois, l'histoire familiale fait que je pense que j'ai plus de légitimité. Je sens plus de légitimité à écrire. Mais même au sein de ma famille, je vois que les gars qui écrivent ont toujours eu beaucoup plus... Bah, c'est eux qui publient, c'est eux qui sont médiatisés et tout. Les meufs de ma famille au Maroc, c'est le côté de la famille marocaine, qui écrivent, elles n'ont jamais publié ni rien, tu vois. Et elles écrivent des poèmes et tout. Donc là, j'ai le projet de faire un documentaire sur mes tantes. Notamment pour parler de ça, parce qu'en fait, des fois, ça m'énerve que les gars, ils prennent toute la notoriété et la place, tandis que les meufs sont oubliées, tu vois. Je veux dire, même au sein d'une famille d'auteurs et d'autrices, on va dire. L'écriture, t'es dans ta tête. Tu parles pas, y a pas de, c'est pas sonore, tu sais. Alors qu'en fait, quand tu lis et quand tu l'écris, t'as une voix. Et quand tu la lis, t'as une voix, tu vois. Tu lis avec une voix dans ta tête de personnage. Mais c'est un truc encore plus intime, c'est vraiment un truc de bulle, l'écriture. Non, mais moi je kiffe parce que ça me permet aussi de me retrouver avec moi-même et d'exprimer plein de choses, notamment des colères, des émotions genre la tristesse et tout, mais aussi des joies. mais ce que je trouve plus compliqué, non, bah, c'est le processus là de par exemple, mais là c'est lié à mon projet perso, mais ça va être quel rapport j'ai avec les membres de ma famille, quelle réception va avoir le roman, à quel moment je m'échappe de la réalité et je m'émancipe et ça devient une réelle fiction, à quel moment il y a des trucs cringe ou pas, tu sais, et en fait la société est traversée de trucs cringe, donc si c'est réaliste, il faut qu'il y ait des trucs cringe, mais du coup je veux pas les... légitimé, sans qu'il y ait non plus un truc de en mode ça c'est nul et ça c'est bien, mais des fois je pense que je le fais sans le vouloir en fait. Du coup, c'est tout un travail aussi de, je sais pas, de construction romanesque pour que ça me ressemble, tu vois. Mais en fait, c'est quand même un travail, je trouve. Donc, ouais, ça pose quand même plein de questions en termes de qui sont les personnages, à quel moment on leur donne voix ou pas, parce que c'est une construction de l'imaginaire, mais en même temps c'est issu de l'imaginaire, mais ça crée, la fiction elle crée quelque chose, tiens, dans le réel. Donc par exemple, tu vois, admettons sur une situation précise, il y a un des personnages qui subit de l'homophobie, et donc là je vais me dire, est-ce que j'ai envie qu'il soit résistant à ça et que du coup il prenne du pouvoir par rapport à ça, ou est-ce que juste il est au fond du seau, tu sais. Et donc s'il est au fond du seau, c'est peut-être plus représentatif, vu que ça, en tout cas là ça se passe dans les années 60 par exemple, mais pas forcément parce que ça dépend des parcours. Donc est-ce que tu veux représenter la majeure partie de ce qui se passait dans les années 60, ou plutôt une minorité qui était à ce moment-là, mais peut-être comme maintenant d'ailleurs, tu vois, qui était revendicative et tout, mais même dans cette minorité revendicative, t'as des gens qui étaient en PLS, du coup tu complexifies les choses aussi, et du coup tu crées des personnages, tu crées des parcours, et soit tu t'imprègnes de la réalité, soit tu t'en émancipes, tu sais, mais en fait tout peut être potentiellement réel aussi. Et en même temps, du coup, qu'est-ce qui prime, c'est que du coup les gens se disent le pauvre il subit trop d'homophobie, c'est la merde, tu sais, et tu recrées une histoire où ça se finit mal, parce que ça se finit toujours mal, tu sais. Soit tu crées une histoire où la personne a du pouvoir et où ça se passe bien à la fin, et ça se trouve c'est pas ce qu'attendent les gens, puisque, enfin oui et non, ça dépend de qui en fait, t'sais. Si c'est des hétérosexuels, ils vont avoir certaines attentes, si ça se trouve que la communauté LGBTQ+ n'aura pas ces attentes, puisque J'entends des fois que les gens en ont marre dans la communauté d'entendre des histoires tristes, par exemple. Tu vois ? Et en même temps, si... Là, pour le coup, si je prends un personnage existant, eh ben, l'histoire, elle va se terminer de manière triste. Donc, c'est là à quel moment je m'échappe ou pas des choses. Donc, c'est tout le temps des choix, tu sais. Tu peux avoir un personnage et une idée, une situation, et l'écrire de mille façons, tu sais. Tu vois ? Et j'aime bien aussi.
Vallée d'olives et d'orangers, célébrant la voûte céleste. Je pensais à ces années, au chemin qui mène au passé. J'arpente ces allées d'un pas léger et affirmé, voyant la liberté bridée d'un pays en déroute. Délicatesse d'échapper aux pupilles indiscrètes. J'erre et je digère des regards indigestes, mais je persiste et signe sur la terre de mon père. J'écris encore, je bute, je doute dans la langue de ma mère. J'erre, j'erre sur la terre de mon père, mais ça je l'écris dans la langue de ma mère. J'erre sur la terre de mon père, mais ça je l'écris dans la langue de ma mère. Chante son allégresse, ici-bas la nuit tombe, se couche sur nos paroles, lentement, doucement, sans un bruit, sans un geste, la lune se dénude, sans pudeur ni détour, dévoilant ses secrets, ses mensonges, ses rumeurs, nous offrant tour à tour des morceaux et des zestes de liberté cachée, à peine révélée. La terre de mon père, mais ça je l'écris dans la langue de ma mère. J'erre sur la terre de mon père, mais ça je l'écris dans la langue de ma mère. Sur la terre de papa, sur la terre paternelle, dans la langue de mama, dans la langue ma maternelle. J'erre, j'erre sur la terre de mon père, mais ça je l'écris dans la langue de ma mère. J'erre sur la terre de mon père, mais ça je l'écris dans la langue de ma mère.
Alors, nous sommes toutes et tous réunis.
Alors, boum. Alors, bah je te fais les questions. Puis toi, si même à un moment, tu te demandes pourquoi la question, tu peux aussi demander, tu vois.
D'accord.
Eh bien, on va commencer par les présentations. D'abord, qu'est-ce que t'écris ?
J'écris un roman. J'appelle ça un roman. Parce que c'est un peu fictionné. Après, c'est pas quelque chose qui va être très long, très gros, beaucoup de pages. Mais voilà, donc j'écris un roman. J'espère finir bientôt, mais à chaque fois, je dis que c'est bientôt. Donc, en tout cas, prochainement. J'ai pas réfléchi à comment je vais le signer. Parce que là, si tu fais un livre, il faut... Enfin, il faut. Encore que la dernière fois, j'ai lu un livre où il n'y avait pas de nom de... Il n'y avait pas de nom. Voilà, c'était un texte, enfin un texte conséquent, hein. Et je ne me rappelle plus comment c'est une copine qui me l'a offert, et il n'y avait pas de nom. Mais je crois que je vais mettre un nom quand même.
Et là maintenant, tu te présenterais comment ?
Alexia. Oui, un prénom Alexia. Ouais. Mais quand tu m'as demandé, est-ce que tu veux, on fait une interview des personnes comme ça qui écrivent, et j'ai pensé à toi, est-ce que t'es ok ? J'étais contente que tu me proposes de m'interviewer. Après, je savais pas du tout quelle était la teneur de l'interview, Mais j'étais contente parce que c'est comme si, à un moment donné, on me plaçait dans un endroit, enfin, tu me plaçais dans un endroit et dire, bah voilà, toi, t'écris, je sais que t'écris. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça ou répondre aux questions? Ça m'a fait plaisir. J'adore lire, en fait. J'adore les livres. Et que j'ai vraiment... qu'il y a quelque chose de... Il y a des choses qui m'émeut, il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui m'émerveillent dans les livres ou qui m'effraient. Et donc, en fait, je trouve que c'est un vrai endroit de vie, tu vois. C'est comme des bouffées d'oxygène, en fait, les bouquins, en fait, pour moi. Et donc, peut-être, est-ce que c'est ça qui a été au départ d'une envie d'écrire? Après, en fait, on écrit pour dire des choses, en fait, pour montrer des choses. Alors, c'est peut-être aussi, à un moment donné, un engagement, tu vois, qui a fait qu'il y avait l'écriture aussi qui s'est trouvée là. Mon rapport à l'écrit, il est depuis toujours, en fait. Alors, au début, ça se manifestait, quand j'étais plus jeune, par des cahiers où j'écrivais... Je prenais mon cahier, je partais, j'écrivais des choses. Alors, c'était plutôt de la vie qui me racontait moi, ou mes déboires, ou mes aventures. On pourrait dire que c'est des cahiers intimes. Et j'en ai plusieurs de ces cahiers. Voilà. Et puis, il y a eu des périodes où j'écrivais moins. Et puis, après, ça revenait. En fait, je vois que c'est là depuis très longtemps. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste. Et j'avais créé Au Canard Enchaîné. Sur l'histoire, j'avais fait un article sur la vallée d'Aspe. Et... J'étais très contente, moi, d'avoir écrit cet article, et il m'avait quand même renvoyé un petit mot en disant salutations enchaînées et merci de votre écrit, mais bon, ça n'avait pas été publié, quoi. Mmh. Et puis après aussi des expériences collectives qui fait qu'en fait, t'es dans l'écriture, tu veux transmettre quelque chose ou dire quelque chose. Donc ça peut être participer à des journaux, écrire des articles. En tout cas, je sais que dans cette envie d'écrire, il y a quand même envie de dire quelque chose pour que quelque chose aille mieux à un moment donné ou d'aller quelque part. Parce que tu sais, il y aurait une forme d'écriture un peu récréative. Un truc, tu vois, une espèce de nouvelle rigolote. Mais peut-être même dans le rigolo, il y a quand même quelque chose derrière qui est peut-être moins rigolo, en tout cas qui questionne, tu vois, qui interroge, qui place les gens ailleurs, dans un endroit où ils n'avaient pas pensé être, ou des choses comme ça. D'ailleurs, à la limite, j'ai plus envie de réfléchir à ce que ça soit accessible pour tout le monde que me dire j'écris pour un type de public, tu vois, parce que quelquefois aussi, l'écriture, elle est un peu... Elle est dure pour des gens, peut-être qu'elle peut être dure pour certaines personnes, tu vois, des termes employés ou des tournures de phrases. Donc moi, je serais plutôt à ce que les choses soient plus simples et simplifiées pour que ça soit accessible pour tout le monde, en fait. Alors ce roman, en fait, c'est des interrogations que j'ai sur ma... sur moi, ma famille. Et en fait, le déclic, c'est un voyage que j'ai fait en 2012, en Ukraine. Voilà. Et donc, c'est en fait, je me suis dit... Il y avait d'autres écrits, en fait, qui avaient eu lieu, tu vois, sur des interrogations, sur des choses comme ça. Mais le voyage, en fait, et le retour du voyage, il a provoqué ce truc de... Allez, là, j'ai envie de raconter quelque chose, quoi. Qui parle du voyage, qui parle de... Alors, comme c'est fictionné, en fait, là, je me dévoile, je ne devrais pas le dire, mais c'est un peu aussi... Il y a des choses de mon histoire, de ma famille, en fait, dans cet écrit. Et je crois, en fait, bizarrement, c'est pour... c'est un peu aussi pour mes sœurs. Comme si une de mes sœurs m'a aidée à faire un pas. Et donc, en fait, c'est comme si je retournais la balle en écrivant cette histoire. Et en fait, c'est aussi pour me débarrasser de quelque chose, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si... en tout cas, de me débarrasser... pas vraiment me débarrasser, parce que j'espère que quand même, j'arriverai à un truc à la fin, que ça va me plaire, quoi. Tu vois, que ce n'est pas un truc que je... Mais j'ai mis quand même, tu vois, 2012, on est en 2022. Donc ça fait longtemps, en fait. Ça fait une dizaine d'années. Et puis, ce que j'avais écrit avant, le voyage, l'après-voyage où je me suis interrogée, tout ça, en fait, ça fait une histoire. Voilà. Et c'est en train d'être terminé.
Ouais, c'est fou, il s'en passe des choses dans cette maison. J'ai l'impression qu'il se dit autant de choses qu'il y a de portes.
Ouais. Et bah, c'est pas si flippant que ça, au final. Quand t'écoutes un peu ce qu'il et elle ont à dire, ça a l'air assez émancipateur aussi.
Il y a encore une porte. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller voir ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on pourrait entendre?
Ouais. Ah oui. Mais elle est fermée. T'as pas des clés? Tu gères, Mathilde.
Mais il y a toute l'équipe de Bras Zéro.
Ah non, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas Diane, regarde.
Ah bah oui. Bah elle est où?
Par contre, il y a ton double.
Oh non, voilà, ça y est, je reflippe.
Ouah, c'est super chelou.
Alors, nous sommes toutes et tous réunis autour de la page blanche. Droitière, gauchère, gaucher, droitier, tout le monde est là. Nous allons partir sur une liste. La consigne, c'est d'écrire une liste de clés qui peuvent être en effet des clés USB ou des clés de voiture, de maison, de jardin secret, de n'importe quoi. Une clé. Et puis si c'est une liste avec une clé, il n'y a pas de problème. Eh bien, top. C'est parti. Merci.
Comme ça, ça sonne.
Ah bon?
Ah ben, 30 secondes, c'est pas bon.
Ok.
Allez.
Les clés de la cave. Une clé USB Tails.
Donc une clé USB.
Les clés du placard.
Une clé d'antivol de vélo, une clé de la caisse
et
enregistreuse d'un bar.
Les clés d'antivol de mon vélo.
Une clé Allen et mes clés de.
Alors moi j'ai. C'est assez. Ça se ressemble. C'est une clé de garage.
La clé des champs, la clé USB de l'émission.
Une clé du garage,
clé
une
chez moi,
clé de la
clé
serrure
du garage,
de la porte d'entrée.
La clé de la radio, la clé anglaise, la clé que j'ai perdue.
Une clé de la maison de mes parents que beaucoup de gens ont.
La clé USB.
Clé de mon cadenas accroché sous ma selle il y a très longtemps.
La clé de chez toi, la clé du garage.
Moi j'ai marqué clé USB,
la clé de ton
clé
cœur,
chez moi.
La clé
mais
de
en
la
fait, maintenant chez moi il n'y a pas de clé, donc clé de chez moi avant. Clé de chez mes parents. La clé de la maison jouet de ma fille.
La clé d'entrée de chez moi. La clé d'entrée de chez ma sœur. La clé d'entrée de chez ma mère. La clé d'entrée de mon travail.
T'as pas les clés de sortie du coup.
We'll be right back.
Le point de départ, c'est pour moi, comment je vois les choses, quoi, c'est de faire des outils, quoi, et un peu sur une manière presque artisanale, quoi. C'est-à-dire, j'ai des savoir-faire, j'avance avec plein de gens différents et avec toutes ces idées, ces pratiques, bah, d'essayer de fabriquer ensemble des outils et de les mettre à disposition. Et que bah, les personnes, mais que ce soit des outils qui soient faits d'une manière que justement on se sente de les tordre, de les transformer, de les adapter. Parce qu'en fait, il y a personne aussi qui peut dire tiens, ça c'est le bon outil pour se libérer. Ou c'est plutôt chaque personne, chaque collectif, chaque groupe en lutte, confronté au rapport de domination qui sont dans sa situation, enfin qui structure sa situation, bah, qui peut décider. Enfin, voilà, tester, expérimenter les outils, décider lesquels sont les bons, puis des fois il y a des trucs ça marche bien, mais d'un point de vue je sais pas quoi, politique ça te plaît pas, enfin bon voilà, il y a personne qui peut te dire tiens c'est ça les bons outils, quoi. Et voilà, l'objectif c'est ça. Après je me rends compte souvent que sur le chemin de l'écriture il se passe plein d'autres choses qui sont pas dans les objectifs de départ. Et par exemple, le protocole de recherche, pour moi en tout cas, souvent il passe dans l'écriture. C'est-à-dire que quand je commence à faire le premier squelette d'un texte, et ben, y a des moments où, tu vois, pour rendre intelligible un truc, où ben, tu te rends compte que, mais là en fait, comment tu passes de cette idée-là, il manque une source. Donc tu retournes chercher des sources, tu vois, et en trouvant des sources différentes que tu connaissais pas, tu te dis... Ah ouais, je voyais les choses comme ça, et en fait, c'est plus complexe que ça. Ou en fait, juste, ça s'est pas historiquement, là, ça s'est pas passé comme ça. Ou sur tel truc, effectivement, on dirait que c'est ça, mais en fait, on n'a aucune source pour se dire que ça s'est effectivement passé comme ça. Donc, peut-être qu'il faut le formuler en doutant. Ou juste dire, bah là, on n'a pas de source, alors on peut imaginer ça, ou n'imaginons rien, et puis voilà. Et voilà, et je sais que comme je passe beaucoup de temps sur ces moments d'écriture là, à retourner aux sources et à retourner vers les lectures des camarades et des proches, bah, je sais que ça fait beaucoup partie aussi du processus de recherche pour moi. Et du coup, forcément, bah, ça te transforme aussi, parce qu'en fait, quand tu découvres des nouvelles idées, quand tu les croises avec d'autres et que tu fabriques des nouveaux modèles, bah, ça te change, quoi. Et puis passer du temps sur un truc sur lequel tu concentres ton attention, il y a quelque chose qui est un peu hypnotique, tu vois. Du coup, dans ces moments-là, tu es dans des espèces de... Il y a des transes d'écriture aussi, quoi. Et du coup, bah, dans ces séquences, les idées, les imaginaires ont beaucoup plus d'influence sur ta possibilité de te changer, quoi. Et j'ai l'impression que ça fait... Enfin, quasiment... Sans doute tout le monde, en fait, on se transforme quand on écrit, et souvent sans s'en rendre compte, quoi.
Et après, ouais, sur les formes que tu utilises et pourquoi, donc tu as dit que tu fais des livres de recherche, je sais aussi que tu as fait un roman, qu'il y a des films, donc critiques, etc. Comment, voilà, c'est quoi les différentes formes que tu utilises et pourquoi?
Comme je te disais, l'objectif c'est de faire des outils qui servent dans les luttes et de restituer le fruit de mes travaux de recherche, de les partager. Et du coup, bah, y a des gens, ils aiment bien lire un peu, mais pas des trucs trop longs. Il y a des gens, ça les intéresse plus de rentrer dans un sujet par un roman. Enfin, puis on me l'a dit, en fait, quand j'avais fini L'ennemi intérieur, je croisais des personnes avec qui on avait des réflexions de dingue et tout, et puis qui des fois me disaient, mais ouais, c'est super intéressant, mais moi ça me saoule de lire un truc technique qui a une forme encore un peu universitaire, même si les gens me disent qu'ils voient que je fais un effort pour utiliser une langue commune et pas faire des phrases trop longues, enfin pour que ce soit accessible. Mais voilà, il y a aussi des gens qui disent, bah, moi c'est pas ma manière d'entrer dans l'écrit. Je préfère le roman, du coup j'ai fait un roman, et puis bah pareil, en l'écrivant aussi, enfin, j'avais déjà écrit des trucs un peu fiction, et où en tout cas où tu peux faire tout ce que tu veux, parce que la forme de la recherche universitaire, tu peux la prendre, tu peux la transformer, tu peux la rendre moins académique, mais tu restes pris dans les logiques de démonstration. La littérature, tu fais ce que tu veux, du coup c'est extraordinaire, même politiquement à plein de niveaux, puis sur l'esthétique, quoi, sur la forme de ta langue, de ce que tu peux, enfin tu peux tout faire, quoi. Donc ça, c'est franchement, c'est trop fort, quoi. Moi ça m'a pareil, ça m'a transformé aussi quand j'ai bossé sur un bouquin qui s'appelle le théorème de la Hagra, et je m'étais dit que j'en referais et tout, et en fait je suis tellement embarqué dans des trucs que ça fait 10 ans qu'il est sorti, quoi. Mais il y aura une suite. C'est 4. Et puis, t'as des personnes qui disent, moi, même les romans, il y a des personnes qui n'ont pas le temps, puis il y a des personnes qui n'ont pas envie, et puis voilà, c'est pas leur truc, quoi. Et du coup, c'est aussi pour ça que je fais de l'audio, de la vidéo, des films, des podcasts, des ateliers aussi. Je suis amené à intervenir assez régulièrement dans pas mal d'endroits, et que dans ces moments, en fait, on se transmet beaucoup de choses, quoi. Des fois, j'ai pas mal de fois dans ma vie, il y a des idées qui te bouleversent et qui t'outillent énormément. Elles viennent comme ça dans une discussion, des fois même juste dans une manière, quelque chose dont tu avais déjà entendu parler, mais une personne, elle va la formuler à sa manière, avec une image, une métaphore qui va te bousculer, et te nourrir et te changer énormément, quoi. Et du coup, je fais feu de tout bois, quoi. Voilà. Après, voilà, dans le livre, il y a la possibilité d'entrer dans des complexités, quoi, et de prendre le temps et d'y revenir. Mais tu peux regarder un film plein de fois. Il y a tellement de films qui permettent de réfléchir dans la complexité, de monter en théorie, de philosopher à tous les niveaux, et qu'on nourrit nos imaginaires politiques sans doute plus que la plupart des grands écrits politico-théoriques qu'on considère importants, quoi. Et donc voilà, je sacralise pas le livre non plus, quoi. Et puis en plus, je sais que c'est aussi un truc qui est pareil, qui est structuré par des rapports de domination. Un livre, c'est pas neutre, quoi. Qui l'a fabriqué, comment, qu'est-ce que ça coûte. Quand t'arrives chez quelqu'un, est-ce que tu te retrouves confronté directement à une bibliothèque qui t'installe un truc ou non. Enfin, tu vois, genre, c'est aussi beaucoup de... Il y a beaucoup de symbolique dans tout ça, et des fois il y a une symbolique du livre qui est pas du tout émancipatrice, quoi, qui est plutôt là pour faire régner des dominations symboliques, quoi. Du coup, je pense pas qu'il faut le sacraliser, comme différent, c'est un outil spécifique, et il a jamais cessé d'évoluer. Et il y a eu des moments où c'était... Enfin, il y a plein de moments, plein de situations dans lesquelles c'est pas du tout des outils pour nous libérer. Enfin, ça peut même... Il y a des livres qui sont des outils pour nous dominer, pour nous écraser, pour nous confusionner, etc., quoi. Et donc, c'est un champ de bataille aussi en tant que tel, quoi. C'est ce qu'on en fait, et aussi la manière dont on les utilise, dont on les transforme. Voilà. Mais comme plein d'autres outils, quoi.
Je crois qu'on pourrait écrire un livre sur justement cette maison, sur notre voyage.
Waouh, ce serait beau. Est-ce que tu crois qu'on a fini de tout explorer, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à aller voir ?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un auditorium au sous-sol dans lequel il y a plein d'écrivains et d'écrivaines qui lisent leurs textes. En tout cas, c'est ce que je m'imagine. Et c'est ce qui va arriver.
Allons-y.
Le voyage, partie 3. Suzanne décide de rester une nuit. Elle demande à Oliana de questionner Rosalia à ce sujet. La grand-mère ukrainienne est enthousiaste. La famille l'attendra à Vliv. Suzanne a fait ce voyage à travers l'Europe, à l'inverse, un siècle plus tôt, de sa grand-mère et de son grand-père, celui qu'ils n'ont jamais fait, de retourner dans leur pays, de l'endroit d'où ils venaient. Elle a découvert le village de ses ancêtres, et puis, cette femme, comme un miracle. Suzanne a de la chance, elle le sait. Combien de personnes parties sur les traces de leur famille ne trouvent rien ? Suzanne a trouvé Rosalia. Edel et Elias semblent naturellement ravis que leur mère profite de ce moment. Joseph, lui, par son regard, l'a comme incité à rester. Oulania viendra rechercher Suzanne.
Une fois les au revoir terminés et la voiture partie, Suzanne explique par des gestes à Rosalia qu'elle va se promener. Le soleil rond commence à décliner. À la sortie du village, il y a un énorme bâtiment religieux. Ses couleurs sont presque étourdissantes. Un ocre étincelant et un bleu si profond qu'il donne envie de s'y plonger, comme une mer azul tout cobalt. L'air est doux. Suzanne s'assoit sur un muret et respire profondément. Elle sent une odeur de bois brûlé. Elle voit au loin de la fumée. Il y a aussi l'odeur de l'herbe et des prés remplis de vaches. Quand elle revient vers la maison, Suzanne aperçoit Rosalia. Elle discute dehors avec un homme, peut-être un voisin. Elle a changé de tenue. Elle porte une robe de plusieurs couleurs. En fait, une robe sorte de blouse sur une autre robe, la deuxième dépassant de 10 cm au niveau du haut du genou. Rosalia a un fichu au ton rouge lilas jaune sur la tête. Suzanne ferme les yeux et pense à un tableau de Chagall. L'homme s'éloigne puis revient quelque temps après. Il est accompagné d'un jeune garçon. Ils apportent un lit pliable et un matelas. Ils l'installent dans un coin de la salle à manger. Les deux hommes parlent avec Rosalia et en partant saluent Suzanne. Puis, la tante ukrainienne s'affaire avec des draps et une sorte de petit édredon. Suzanne s'avance vers Rosalia et l'aide à préparer le lit. La vieille femme la regarde en acquiesçant. Dans cette maison où Rosalia lui donne l'hospitalité, Suzanne est troublée, un peu mal à l'aise, mais elle ne se sent pas une intruse. Elle s'installe près de la fenêtre. Une heure passe. Le soir, toutes les deux, en tête à tête, elles mangent une soupe de légumes. Elles ne disent rien, s'observent et se sourient. À la fin du repas, Suzanne veut aider, mais Rosalia se lève, lui prend le bras en lui appuyant sur l'épaule. Elle lui dit sans parole « Va, ma fille, reste là tranquille. » Vent, petit vent. Suzanne l'entend derrière la fenêtre, un râle sourd, plaintif, se brisant contre la vitre. Il fait nuit, mais Suzanne ne dort pas. Le vent amène le froid nocturne. Suzanne est rêveuse. Elle pense à ses soirées d'été, quand le vent souffle doucement et qu'elle entend son bruit contre ses joues et aussi celui qu'il fait dans les feuilles. Suzanne se souvient de la fraîcheur et la douceur du vent sur ses jambes. Elle aime respirer les odeurs qu'il ramène, celles de la lavande, celles des pins. Suzanne voit, comme un songe, la danse des fleurs et le balancement des arbres. En levant le bras au-dessus de sa tête, il lui semble qu'elle pourrait à son tour caresser le vent. Puis, elle se retourne dans son lit et se blottit sous l'étrodon.
Donc là, la proposition, c'est de choisir une clé et de raconter une anecdote réelle ou fictive vécue avec cette clé. Et nous aurons 1 minute 22, s'il vous plaît.
C'est fini, il faut que tu poses ton stylo.
On peut s'émanciper des contraintes dès qu'on a envie.
Mais pas des contraintes qui émancipent.
Est-ce que tu voudrais nous dire ton anecdote ?
C'est une. Alors, j'ai choisi plutôt le réel à la fiction. Je trouve que finalement, ça parle plus du réel que de la fiction. Donc, c'est le jour où j'ai perdu la clé de la réussite. C'était un matin et j'allais à un examen. Et c'était assez tôt d'ailleurs, je crois que c'est en métro, quoi. Et je m'en suis aperçu parce qu'en fait, je l'ai raté. Donc voilà. Et donc je ne sais pas comment ça se fait et comment ça s'est passé, mais je suis hyper content parce qu'en fait, je viens de la retrouver. C'est Marie qui l'a. Donc tout va aller mieux.
Lors d'une rando vélo, ma selle a lâché. Pas grave, me direz-vous, c'était sans compter sur ce pote qui n'avait pas remis la clé dans la sacoche. J'ai donc fini la balade en danseuse sans selle. Sans clé Allen, pas de fesses posées.
Clé du garage. Je sais qu'elle ne s'ouvre pas dans le sens normal. À l'envers, quoi. Mais en fait, ça veut dire quoi, s'ouvrir normalement? Qui a décidé du sens normal? C'est partout normal pareil, où il y a des tours de clés anormaux, normaux ailleurs. C'est pas une anecdote, en fait.
Ouais. Non, mais ça fait réfléchir.
Ouais.
J'ai choisi une clé qui n'était pas dans ma liste. Chez ma grand-mère, il y avait une très grande clé posée sur une étagère du salon. Et je sais que ma grand-mère racontait souvent son histoire. Après, les 30 secondes qui ont sonné, donc voilà.
Je n'ai pas du tout le temps.
Oh, le teaser, quoi. Le teaser de ouf, quand on veut l'histoire de la clé de la grand-mère, quoi.
Ben, moi, je vais faire comme Ariella, du coup. Pour moi, 1 minute 22, c'est beaucoup trop court. C'était dans un haut building de la Success Street dans les années 40.
Waouh.
Bah moi, c'est la clé de chez moi. Et mon anecdote, c'est une fois, je l'ai cachée sous le paillasson.
Bon, bah c'était super cette découverte de la maison de l'écriture. Mais ouais. Moi, ça fait trop longtemps que ma clé traîne sous mon paillasson. Et du coup, je crois que je vais partir la récupérer.
Ouais, moi, ça sert à rien que je reste sans toi. J'y vais aussi.
On y va ?
Ouais. Et juste pour vous dire, dans les prochains épisodes de ces Brasero Écriture, on va parler écriture collective, atelier d'écriture, écriture musicale, rap, slam, etc.
À bientôt pour de nouvelles aventures.